à Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide en votre compagnie. Ravi de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington. Nous sommes le jeudi 19 avril 2018. À la une ce soir, manifestation réprimée et interpellation d'un ex-premier ministre au Sénégal. L'opposition dans la rue pour dénoncer la réforme du code électoral.
Tout le monde a appelé le président Macky Sall à recourir au vote de cette loi-là pour trouver un consensus. Et il ne veut rien entendre.
Également dans l'actualité au Tchad, l'Église veut un référendum sur la nouvelle constitution plutôt que la voie parlementaire. Le Burundi approuve les perquisitions de nuit et sans mandat, une atteinte à la démocratie, crient les opposants. À l'international, le président sud-coréen évoque un traité de paix avec le Nord. Dans la partie magazine, nous irons à la rencontre d'un groupe de jeunes congolais qui recyclent des déchets pour éclairer Bukavu. Leur collectif s'appelle Kwanza Technology. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports un peu plus tard. Au Sénégal, les forces de l'ordre ont empêché à coups de gaz lacrymogène la tenue de manifestation aujourd'hui à Dakar à des opposants dont l'ancien chef du gouvernement, Idrissa Seck, venu protester contre le vote de la révision du code électoral moins d'un an avant la présidentielle ont été interpellés de la capitale sénégalaise. Le compte-rendu de notre correspondant Sedina Abagay.
Depuis plusieurs heures, les forces de l'ordre traquent les manifestants dans les rues et les ruelles de la capitale sénégalaise, à Dakar. Policiers et gendarmes ont très tôt pris position dans les points stratégiques. Les forces de l'ordre usent abondamment des gaz lacrymogènes pour disperser tout mouvement de foule. Malgré leur détermination, les manifestants n'ont pu accéder à la place Soweto, symbole de l'insurrection du 23 juin 2011 qui avait obligé le président Abdoulaye Wade à retirer un projet de loi qui visait aussi une modification de la loi électorale. Les leaders de l'opposition qui ont appelé à manifester ont très tôt été mis aux arrêts. Parmi eux, l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Ce dernier est l'un des derniers pions de l'opposition pour la présidentielle de 2019. D'autres arrestations sont à déplorer, notamment celle de l'ancien ministre du Commerce de l'actuel régime. Malgré les multiples interventions de la police, plusieurs manifestations sont en cours dans la capitale. Dans l'hémicycle, la tension est à son paroxysme. Des échauffourées ont d'ailleurs opposé les députés de la majorité à ceux de l'opposition. À Dakar, Seydina Ababey pour VOA Afrique.
Nous y reviendrons tout à l'heure dans la tranche magazine. Au Tchad, les évêques catholiques appellent à une adoption par référendum de la nouvelle constitution plutôt que par voie parlementaire. La conférence épiscopale tchadienne estime que le projet ne reçoit pas l'adhésion de l'ensemble des citoyens. Reste à Girondin pour les détails.
L'Église, dans un communiqué, a rappelé que le changement de constitution doit se faire dans le respect de la Constitution, qui dit que sa révision est adoptée par référendum. Les évêques dénoncent l'adoption de la nouvelle Constitution par voie parlementaire, estimant que le projet ne reçoit pas l'adhésion de l'ensemble des citoyens. La conférence épiscopale tchadienne note aussi que la pauvreté grandit de plus en plus et de graves violations des droits humains fondamentaux se généralisent au Tchad, marquées ce début d'année par une forte grogne sociale. L'adoption du nouveau texte constitutionnel est prévue à l'Assemblée nationale fin avril. S'il est adopté, le président tchadien, Idriss Déby, pourrait se représenter en 2021 et, théoriquement, effectuer deux autres mandats de 6 ans jusqu'en 2033.
Au Burundi, l'Assemblée nationale a adopté hier à une très grande majorité un projet de loi sur la révision du code pénal. Désormais, les perquisitions de nuit et sans mandat d'un magistrat seront menées par les forces de l'ordre qui peuvent fouiller tout un quartier. L'opposition burundaise, tout comme les organisations de défense des droits humains, dénonce ce projet de loi qui, disent-elles, fait reculer la démocratie. De Bujumbura, le point avec notre correspondant Christophe Kurunziza.
Par 90 voix pour, 22 contre de la principale formation politique de l'opposition, le Front National de Libération d'Agathon Rwasa, et 0 abstention, les députés de l'Assemblée nationale burundaise ont adopté un projet de loi portant révision du code pénal. La ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, a justifié en affirmant que le Burundi est aujourd'hui confronté à des formes de criminalité particulièrement graves, comme le terrorisme, le trafic humain, la détention illégale d'armes à feu, la consommation de stupéfiants et des infractions à caractère sexuel. sexuelle. Pour lutter contre ces phénomènes, la ministre kenyana préconise d'adapter des stratégies novatrices tendant à développer des procédures spéciales dérogatoires du droit commun. Si la loi est adoptée par le Sénat, le texte donne la permission aux forces de l'ordre de procéder à des perquisitions de nuit et sans mandat. Pour Léonce Ngendakumana du parti Front pour la démocratie au Burundi, le pouvoir de Bujumbura est en train d'enterrer la démocratie au Burundi, car les forces de l'ordre auront la permission de boucler tout un quartier pour des perquisitions multiples. Pour la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, c'est une volonté du pouvoir en place pour museler l'opposition à moins d'un mois du référendum constitutionnel. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Éthiopie, le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a remanié aujourd'hui son gouvernement afin de tenter d'endiguer le mécontentement croissant à l'encontre de la coalition au pouvoir depuis 1991, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens. Le jeune chef du gouvernement de 42 ans a nommé 16 ministres, dont 10 n'avaient jamais fait partie d'un cabinet ministériel. Parmi eux, Motuma Mekasa, de la branche Oromo de la coalition, remplace Siraj Feghessa comme ministre de la Défense. Il sera notamment chargé de superviser la mise en œuvre de l'état d'urgence en vigueur dans tout le pays depuis la démission surprise du prédécesseur de M. Abiy, Haile Mariam Desalegn, en février dernier. Aux Comores, le président Azali Assoumani a suspendu la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. Il a transféré provisoirement sa compétence à la Cour suprême, une décision dénoncée par l'opposition comme un abus de pouvoir. Le chef de l'État justifie cette mesure par le non-fonctionnement de la Cour constitutionnelle en raison du nombre incomplet des juges qui la composent. Pour Youssouf Boïna, de l'un des deux principaux partis d'opposition, le pays est sorti des limites de la démocratie au profit d'un ordre monarchique. En Guinée-Bissau, ouverture du Parlement, pour la première fois depuis 2 ans, la paralysie était due à la crise entre le président José Mario Vaz et le parti au pouvoir depuis la destitution, 3 ans de cela, du Premier ministre Domingos Chimoesh Pereira. Un nouvel accord de sortie de crise a été conclu lors d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, le 14 avril dernier à Lomé. Accord qui a notamment abouti à la nomination d'un nouveau chef du gouvernement, Aris Tsides Gomesh, a pris ses fonctions lundi dernier. Il est en charge de conduire le pays aux élections législatives le 18 novembre prochain.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a observé ce jeudi matin une minute de silence à la mémoire de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, Bernard Tano Boutchoué, est décédé hier dans un hôpital de New York à l'âge de 67 ans. La Côte d'Ivoire est membre non permanent du Conseil de sécurité. Bernard Tano Boutchoué avait été muté de Russie à New York en décembre dernier. Fin mars, il s'était abstenu lors d'un vote sur la Syrie, provoquant la colère d'autres membres du Conseil de sécurité. La raison précise de son décès n'a pas été communiquée. Au début des travaux du Conseil ce matin, l'ambassadrice américaine Nikki Haley a parlé d'un ami. Son rire était contagieux, dit-elle. Né le 17 juillet 1950, Bernard Tano Boutchoué était marié et avait 3 enfants. Le président sud-coréen Moon Jae-in a souhaité la conclusion d'un traité de paix pour mettre fin à la guerre de Corée à l'approche d'un sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Yakuba Wilravgo.
L'armistice qui traîne en longueur depuis 65 ans doit prendre fin, a déclaré le président sud-coréen Moon Jae-in. Il a cependant souligné que la conclusion d'un traité de paix serait soumise à l'abandon par la Corée du Nord de ses programmes nucléaires et balistiques. Le président Moon Jae-in a aussi fait savoir que si le sommet intercoréen et le sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis débouchent sur la dénucléarisation, il ne sera pas difficile de trouver des accords sur la normalisation des relations entre le Nord et les États-Unis. Le sommet entre les deux dirigeants coréens sera le prélude d'une rencontre historique entre M. Kim et le président Donald Trump, qui a prévenu que cette réunion pourrait être annulée s'il la juge non fructueuse. D'après M. Moon, pour l'heure, la Corée du Nord montre à la communauté internationale une disposition pour une dénucléarisation totale. Il dit toutefois qu'il est trop tôt pour garantir le succès du dialogue intercoréen qui ne pourra avoir lieu qu'après un sommet américano-nord-coréen réussi.
Également dans le cahier international à Cuba, l'équipe du Conseil d'État qui accompagnera le nouveau président Miguel Díaz-Canel a été renouvelée à hauteur d'un tiers et marque le départ avec Raúl Castro de quelques figures majeures de la génération historique. Le plus important organe exécutif cubain peut également exercer le pouvoir législatif. Le nouveau premier vice-président de ce Conseil d'État, premier dans l'ordre de succession présidentielle à Cuba, est Salvador Valdés Mesa. Âgé de 72 ans, il est le premier membre de la communauté afro-cubaine à siéger un poste aussi important. En fin de magazine, nous parlerons davantage de cette fin de l'ère Castro à Cuba. Et puis la Russie affirme avoir trouvé des cylindres contenant du chlore en provenance d'Allemagne et des fumigènes britanniques dans la Ghouta orientale en Syrie, ex-enclave rebelle reprise par le régime syrien. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un résumé de l'actualité économique en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
L'insécurité alimentaire risque de s'aggraver dans le Sahel. La sécheresse chasse les troupeaux et leurs bergers vers des contrées plus accueillantes. Les animaux ont envahi et détruit des parcelles de culture, ce qui a déclenché une crise pastorale. Les investissements en semences et engrais ont été anéantis. D'ici l'été, les personnes en besoin d'assistance alimentaire pourraient dépasser 10 millions. Les récoltes de céréales ont sensiblement baissé en Gambie, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau et au Tchad. Les prix des céréales et tubercules restent plus élevés que la moyenne des 5 dernières années. La production de fourrage a aussi baissé de 95% en Mauritanie et de 80% au Sénégal. La CEDEAO se réunira le 28 avril à Abuja pour trouver rapidement une solution. La Mauritanie et le Tchad vont aussi participer à cette rencontre. Les États-Unis et le Japon vont lancer des discussions sur des accords commerciaux libres, équitables et réciproques. Cependant, le président Donald Trump et le premier ministre japonais Shinzo Abe reconnaissent la persistance de différences de vues. Le Japon veut faire revenir Washington dans l'accord de libre-échange transpacifique TPP, tandis que les Américains privilégient un accord bilatéral de libre-échange. Monsieur Trump s'est retiré du TPP dès son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2017. Pourtant, 11 pays des deux rives du Pacifique ont signé ce traité commercial, sauf la Chine.
Et maintenant, tour d'horizon des nouvelles sportives avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques.
Alors, le tableau des qualifiés pour la phase de groupe de la Coupe CAF est complet.
Tout à fait Jacques, les 16 formations qui se disputeront le trophée de cette saison sont connues et l'Afrique de l'Ouest effectue un retour en force avec 5 clubs, la SEC Mimosa et le WAC de la Côte d'Ivoire, Enimba du Nigeria, Djoliba du Mali et Adwana Stars du Ghana représenteront la zone Ouest. La zone Nord aligne 4 équipes avec les Marocains de Renaissance Berkane et Raja Casablanca, l'USM Alger et Al Masri d'Égypte. 4 représentants également pour la zone S avec Gor Mahia, Nyanga, Al Hilal et Rayon Sport. L'AS Vita Club de la RD Congo et Kara du Congo sont les porte-drapeaux de la zone centre. L'UD Songo du Mozambique est l'unique représentant de la zone sud. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe CAF est prévu pour ce samedi 21 avril.
En Espagne, à Cuba, Ivan Rakitic devrait être opérationnel face au FC Séville en finale de la Coupe du Roi.
Et oui, Jacques, le milieu de terrain croate a repris l'entraînement aujourd'hui même avec le FC Barcelone à 2 jours seulement de la finale de la Coupe du Roi qui doit opposer le Barça au FC Séville samedi à Madrid. Opéré mercredi dernier d'une fracture à la main gauche, contractée contre l'AS Rome la veille du quart de finale retour en Ligue des Champions, Ivan Rakitic pourrait effectuer son retour à l'occasion de cette finale.
Et pour terminer, parlons d'argent. La Liga a enregistré 3,6 milliards d'euros de recettes en 2016-2017.
Un record, Jacques, c'est sûr. Et puis sur ces 3,6 milliards d'euros de recettes, bien sûr, 1,46 milliard correspond aux droits télé. Les bénéfices avant impôts s'élèvent à 234 millions d'euros. La Liga espagnole a enregistré une augmentation de près de 500 millions d'euros par rapport à la saison précédente. C'est la meilleure saison en termes de résultats économiques et financiers d'après Javier Gomez, président de la Liga. Pour la saison en cours, il espère dépasser pour la première fois la barre des 4 milliards d'euros de revenus.
Yacouba Ouédraogo, qui s'y connaît en chiffres. Merci bien Yacouba.
Merci à vous Jacques.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre segment magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique émettant de la capitale américaine. Comme promis, retour au Sénégal où plusieurs manifestations à Dakar et dans d'autres villes du pays ont été dispersées par les forces de sécurité. L'opposition avait appelé les populations à se rendre devant l'Assemblée nationale où les députés devaient voter une nouvelle loi électorale qui exigerait à tout candidat un scrutin de présenter au moins 65 000 signatures d'électeurs. Pourquoi cette loi dite de parrainage suscite-t-elle tant la polémique? Pour un décryptage, Abdourahmane Dia s'est entretenu avec le politologue Abdoulou.
Sur le fond, sur le principe, je pense que l'ensemble de la classe politique sénégalaise, la société civile et l'opinion globalement est pour une réforme ou une modernisation, une rationalisation des partis politiques, parce qu'il y en a beaucoup trop au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons 289 partis politiques. Donc là n'est pas la question. Ce qui fait débat, c'est le fait que le président de la République veuille faire passer un projet de loi en force à l'Assemblée nationale parce qu'il détient la majorité. Le projet de loi veut que chaque candidat à l'élection présidentielle réunisse ou mobilise 65 000 signatures des électeurs pour pouvoir être candidat. Depuis le code présidentiel de 1992 au Sénégal, l'élection, le code électoral a toujours été discuté et entendu par les différents acteurs, le parti au pouvoir avec l'opposition et la société civile. Cette fois-ci, ce qui est surprenant, c'est cette volonté de vouloir passer en force.
Et justement, le bulletin unique pourrait régler une bonne partie de la question. Pourquoi, selon vous, le parti au pouvoir ne veut pas du bulletin unique?
C'est là qu'il faut aller voir qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette volonté de dire qu'il faut que chaque électeur, chaque candidat puisse mobiliser 65 000 voix, 65 000 par an, c'est-à-dire 1% de l'électorat global sénégalais qui aujourd'hui tourne autour de 6,5 millions d'électeurs. En disant qu'un candidat ne peut parrainer que par, ou bien un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat à la fois, c'est-à-dire que ça ouvre la possibilité d'éliminer beaucoup de candidats.
Cette loi sur le parrainage existe déjà quand même pour les candidatures indépendantes. Pourquoi l'opposition semble ne pas avoir problème avec cela?
Très bonne question. Très bonne question parce qu'effectivement, c'était totalement injuste d'imposer aux candidats indépendants d'avoir 10 000 signatures. La loi a imposé aux candidats indépendants qui ne sont d'aucun parti politique d'amener 10 000 signatures pour pouvoir participer au concours pour être président de la République. La nouveauté de cette loi, c'est de dire que ça s'appliquera à tous les candidats indépendants comme ceux issus des partis politiques, mais avec un taux de 65 000 voix. Donc on parle plus de 10 000 voix. Ça nécessite de discuter à tous les acteurs, toutes les parties prenantes pour aboutir à quelque chose. Les familles religieuses au Sénégal, toutes les confrères religieuses, les clergés, la société civile, tout le monde a appelé le président Macky Sall à sur soi au vote de cette loi-là pour trouver un consensus. Et il ne veut rien entendre. Jusqu'à hier, il ne voulait rien entendre. Aujourd'hui, ils sont devant le Parlement et ça bouge au Sénégal. Il y a des émeutes un peu partout.
C'était Abdoulou, analyste politique joint à Dakar.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur le paludisme. Cette maladie est en progression avec 5 millions de cas supplémentaires en 2016. Comment expliquer cette augmentation? Une conférence est ouverte dimanche au Sénégal pour faire le point sur la lutte contre le paludisme. Quelles sont les politiques mises en œuvre? Où en sont les recherches scientifiques? Le vaccin en cours d'évaluation sera-t-il à la hauteur des espoirs? On en discute dans Washington Forum. Morgane Guérec avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur VOA.
L'eau, une denrée rare dans le nord-ouest du Burundi. Trois collines de la commune de Murui, dans la province de Cibitoke, en manquent cruellement. Pour s'en procurer, les habitants doivent marcher plus de 3 heures. Les autorités indiquent que les habitants de ces collines n'ont plus qu'un seul robinet public sur une population estimée à plus de 27 000 personnes. Normalement, chaque colline devait avoir au moins 7 robinets, d'après les responsables. Le gros plan du correspondant de VOA Afrique au Burundi, Christophe Nkurunziza.
Les collines de Macha, Gitoera et Manegué sont celles qui manquaient perdument d'eau dans cette commune de Mugui. Même l'eau de pluie n'est pas tombée depuis plus de deux mois. Jésus-Marie Nyonguru, le responsable de la régie communale de l'eau de Mugui au nord-ouest du Burundi, indique que ces derniers temps, la population a augmenté, mais les sources d'eau ont tari suite à la sécheresse. Résultat de ce manque d'eau, les habitants de la circonscription de Macha et des environs n'ont pas d'eau pour se laver. Élèves et vieillards portent des habits sales, comme l'a constaté VOA. Afrique sur place. Beaucoup d'habitants se baladent avec des poux sur la tête, comme en témoigne cette personne âgée.
Nous avons beaucoup de poux car nous n'avons pas d'eau pour laver nos habits. Pour exemple, je porte ce maillot de corps depuis presque un mois sans pouvoir le laver.
Cette commune de Mugui a beaucoup de bananes pour la production de vin de bananes, mais par manque d'eau potable, certaines activités économiques sont au ralenti. Les habitants ont arrêté la production de ce vin, selon le chef de colline de Macha, Onesfor, Niwandete.
Nous avions de l'eau, beaucoup de voitures viendraient charger ce vin de bananes. Faute d'eau, nous acheminons les bananes vers le centre de Mugui. Comme nous avons un petit marché, d'autres bananes sont acheminées vers celui de la colline de Manegué, située près de la route.
Le manque d'eau a aussi des effets néfastes sur la scolarisation des enfants de cette localité. Un enseignant ne cache pas sa peine.
Il est difficile de ne pas voir les conséquences réelles de ce manque d'eau. Nous rappelons aux élèves chaque lundi la nécessité de se laver régulièrement. Quand nous sommons les fautifs de rentrer se laver.
Les parents d'élèves ont peur pour leurs enfants dans cet univers où l'eau est une denrée rare. Témoignage de cette maman.
Nous avons peur que nos enfants s'empoisonnent à cause de ce manque d'eau. Ils cherchent en vain de l'eau à l'école. Des fois, ils se rendent dans les maisons voisines ou vers les sources aux eaux insalubres. Souvent, les enfants tombent malades.
Le conseil social de l'administrateur communal affirme que cette question est connue. Plus de 70 millions de frambous ont été prévus pour trouver une solution à cette question de manque d'eau. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Après l'eau, on va parler d'électricité. Eh bien, à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, le manque d'électricité entrave la bonne marche de beaucoup de services. Et quand tombe la nuit, les familles sont dans l'obscurité. Pour pallier ce problème, quatre jeunes électroniciens et électriciens ont décidé de créer une entreprise, Kwanza Technology. Ils recyclent les composants électroniques tirés de vieux ordinateurs et téléviseurs qu'ils ramassent dans les décharges de la ville pour produire des lampes torches à grande autonomie. Notre correspondant Ernest Mouhero les a rencontrés.
Fraîchement sortis de l'université, ces jeunes de Bukavu fouillent régulièrement les décharges publiques à la recherche des composants électroniques et d'objets plastiques déclassés. Ces quatre génies de Bukavu ont décidé d'unir leur savoir en électricité et en électronique pour fabriquer des lampes torches et apporter leur contribution à la solution du problème de l'électricité.
On reprend ce qui est encore utilisable, comme les condensateurs, les transistors, et puis on les rassemble pour construire les circuits qu'on utilise dans beaucoup de nos torches. Et la spécificité de la torche est que ça a une autonomie de 7 à 10 jours, mais on a été bloqué dans beaucoup d'aspects, quand on manque de machines comme l'imprimante 3D pour faire des formes pour le box de nos circuits pour emballer bien nos produits.
L'aventure commence en 2015 quand ces jeunes créent leur laboratoire baptisé Kwanza Technology. Là, ils travaillent jour et nuit à fabriquer sur commande des torches à grande autonomie équipées d'un dispositif de recharge pour les téléphones portables.
En créant Kwanza, l'idée vraiment était vraiment de faire quelque chose dont les autres n'ont jamais fait. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a commencé par fabriquer des torches et on est allé jusqu'à faire des convertisseurs, des amplificateurs de son et d'autres petits circuits. Les besoins sont grands. On a commencé à produire une torche par jour. Mais pour le moment, on vend jusqu'à deux torches le jour. On termine juste à faire une torche, il y a directement un client.
Vu le peu d'électricité dans la région, les habitants de Bukavu saluent cette initiative qui améliore leur quotidien.
Auparavant, nous achetons les torches au marché. Mais ça fait un jour seulement et puis c'est épuisé. Mais les torches qu'ils fabriquent ici à Bukavu, ça nous aide beaucoup.
Avec un petit budget de départ, moins de $500 américains, les génies de Bukavu font des merveilles.
Ernest Mouero pour VOA Afrique, Bukavu.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Un moment d'histoire pour Cuba. Pour la première fois depuis 1976, l'île ne sera plus dirigée par un Castro. Raoul, le frère de feu Fidel Castro, a cédé aujourd'hui la présidence à son dauphin désigné Miguel Díaz-Canel. Le nouveau chef de l'État de 57 ans dit vouloir poursuivre la révolution cubaine, mais aussi les réformes économiques entamées par Raoul Castro, ce qui fait dire à des observateurs que cette transition, même qualifiée d'historique, s'inscrit toutefois dans la droite ligne du régime castriste. Pour une analyse, Irénée Humbo a interviewé Franz-Antoine Lecomte de l'université Kingsborough à New York.
Après 60 ans au pouvoir de Castro, l'analyse révèle qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs positifs, mais aussi beaucoup de négatifs. Et ça nous montre un peu la restriction d'ordre politique qui règne à Cuba. C'est vrai que les Castro sortent, si vous voulez, du pouvoir officiellement, mais je crois que l'après-Castro, c'est pas encore gérable.
Justement, les médias internationaux et cubains font état de sa grande capacité de travail et sa décontraction. Pensez-vous qu'il pourra apporter la liberté ou une plus grande ouverture au monde tant souhaité par les Cubains?
On ne peut pas dire que cela soit impossible, mais ça va être tout à fait difficile parce qu'il y a un mode de vie, si vous voulez, qui a été installé sur cette île-là depuis 1959. Et c'est pas en deux jours, si vous voulez, qu'on va refonder, si vous voulez, Cuba. C'est vrai, comme je l'ai déjà dit, il y a eu beaucoup de succès à Cuba, mais il faudra travailler vers une sorte de libération, si vous voulez, de l'esprit cubain, de façon à ce que tout le monde puisse exercer leurs droits civils, politiques, économiques, etc., etc.
Vous semblez pessimiste. À quoi donc peut-on s'attendre?
Enfin, ce n'est pas une réjouissance tout azimut, c'est-à-dire on ne peut pas dire, voilà, les Castro ne sont plus là, il faut s'en réjouir. Mais c'est un pays qui a une économie, si vous voulez, qui ne fonctionne pas assez bien. Il y a le marché de l'emploi, si vous voulez, qui n'assure pas la survie, si vous voulez, de certaines personnes à Cuba, qui sont des Cubains. Donc, il y a pas mal de problèmes. Bon, bien sûr, il y a des rapports un peu plus serrés, un peu plus étroits avec la communauté européenne. C'est très positif. Mais je crois qu'ils attendent beaucoup des États-Unis. Et pour le moment, avec le conservatisme qui règne aux États-Unis, alors là, on se pose la question, est-ce que vraiment il y aura de grands rapports qui vont pouvoir s'établir entre Cuba et les États-Unis.
Si je vous comprends bien, ce sera une continuité de la gestion publique des Castro à Cuba.
Ou du moins pendant certains temps, parce qu'il faudra qu'ils inventent une sorte de mécanisme, si vous voulez, de participation politique un peu plus démocratique. Et puis, il faut dire que malgré l'existence de cette opposition, il y a une division de l'opposition. L'opposition ne parle pas en une seule voix. Les libertés d'expression ont toujours été, si vous voulez, circonscrites. Donc, il faut dire que l'opposition même n'a pas grandement touché le peuple, si vous voulez, de manière générale. Mais ce qui pourrait aider, c'est peut-être les États-Unis par l'économie, par le tourisme.
On écoutait le professeur Franz-Antoine Lecomte de l'université Kingsborough. Il était en ligne de New York.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, des anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205. 2633. 001-202-205. 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par l'inégalable Sims Lou Marmi. C'était notre ami Nashwan qui était à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. Et restez branchés parce que l'actualité revient avec Henri Francisque dans quelques petits instants. À plus tard.
VOA Afrique.